c'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona.
Il y a 74 ans, jour pour jour, le 8 mai 1945, l'armistice de la Seconde Guerre mondiale était signé. Eh bien, ce matin, je vous propose de rendre hommage aux hommes qui se sont battus pour la liberté, qui sont entrés en résistance pour combattre l'ennemi allemand. Et quand on parle de résistance, il y a des noms de villages, de villes, de France qui résonnent fort à notre oreille. Ce sont, par exemple, les villes du Chambon-sur-Lignon, Dieulefit, Moissac ou le Vercors. Eh bien, c'est à travers un ouvrage que je vous propose de revenir sur cette histoire. C'est un ouvrage collectif. Il s'intitule « Résistance juive, solidarité, réseau, parcours ». Et c'est un livre paru aux éditions Libelle. Et le coordinateur, le directeur, si vous voulez, de cet ouvrage, eh bien, il s'agit de Bernard Delpal. Il est avec nous ce matin, professeur, directeur de recherche honoraire au CNRS. Bonjour Bernard Delpal.
Bonjour Léa.
Merci d'être avec nous. À vos côtés, Francis Gainsbourger, qui est auteur du livre Le Vercors oublié. Et c'est un livre paru aux éditions de l'Atelier. Nous en avions parlé il y a quelques semaines avec vous, Francis. C'est l'histoire familiale, mais à travers l'histoire familiale, vous faites revivre l'histoire du Vercors. Alors, commençons par cet ouvrage de résistance juive qui rassemble plusieurs études et puis des témoignages également sur trois de ces villes, Chambon-sur-Lignon, Dieulefit, Moissac. Bernard Delpal, est-ce que vous pourriez nous raconter la genèse de cet ouvrage? Comment est-il né?
C'est une très bonne question. Il est né d'une rencontre qui s'est déroulée à Moissac, au bord du Tarn, en 2016, et qui regroupait des témoins en grand nombre, anciens enfants cachés de Moissac, sauvés à Moissac, des historiens, et puis un certain nombre d'observateurs d'aujourd'hui. Et ce qui était intéressant à Moissac, c'est qu'on a eu l'impression qu'une parole se libérait, que cette rencontre favorisait des dialogues, des récits, venant de personnes qui souvent, jusque-là, avaient peu parlé, voire pas du tout.
Oui, ce sont des gens qui ont vécu l'histoire, parce que les historiens, évidemment, étudient les archives, les documents, mais vivre l'histoire, c'est autre chose, ça donne un angle particulier, et là, c'est la rencontre, finalement, de ceux qui racontent l'histoire et de ceux qui ont vécu l'histoire.
Tout à fait, et la rencontre peut être délicate. Par exemple, c'est un grand classique des colloques universitaires, le témoin dit à l'historien, mais comment pouvez-vous dire cela? Vous ne connaissez pas cette situation. Vous n'étiez pas né, moi je l'ai vécu. Donc nous devons être modestes et humbles face aux témoins, mais cela ne doit pas nous empêcher de faire notre travail d'historien.
Oui, parce que finalement un témoin a son angle d'approche, mais il n'est pas forcément le meilleur pour raconter la réalité, la vérité. Il n'a pas non plus toutes les informations, n'est-ce pas? Comme l'historien peut aller, lui par contre, la rechercher.
Alors, effectivement, vous avez raison, mais c'est une rencontre, au fond. Hein. Moissac a eu ceci de bénéfique, c'est que les témoins se sont rendus compte qu'en face d'eux, ils n'avaient pas affaire à des gens hostiles. Ils avaient affaire à des gens qui étaient avides d'écouter ce qui, souvent, avait été enfoui pendant plus de 70 ans et qui affleurait tout à coup.
Oui. Pourquoi il aura fallu attendre autant d'années pour raconter cette histoire?
Alors, c'est une grande question qui se pose aussi bien dans le livre de Francis que dans le nôtre. En ce qui nous concerne, nous, à Moissac, et en ce qui concerne les enfants de Moissac, qui maintenant sont des grands-parents, voire même des arrière-grands-parents, oui, qui venaient du monde entier, oui, d'Israël, des États-Unis, d'Amérique latine. Je crois qu'un certain nombre de grands historiens qui se sont penchés sur cette question me permettent de dire que ces enfants n'avaient jamais rien oublié de ce qu'ils avaient vécu, des traumatismes. Le fait d'avoir été séparés de leurs parents. Ils étaient écartelés à l'intérieur du même camp, par exemple, Rivesaltes. Des parents que, hélas, souvent, ils n'ont plus jamais revus. Donc, de tout cela, ils avaient gardé une mémoire vive. Mais aussi, pour se protéger du désastre, ils avaient pris la résolution de se taire, de ne plus en parler, parce que, comme l'a remarquablement remarqué et exposé Boris Cyrulnik, ils étaient placés face à un terrible dilemme. En parler, même à leurs épouses, en parler à leurs enfants, c'était transmettre de l'angoisse. Mais ne pas en parler, se river dans le silence, c'était se condamner à une espèce d'impuissance et à tourner en rond dans leurs souvenirs. Mmh. Et peut-être que la rencontre de Moissac, peut-être que ce livre a été une façon d'entamer cette fameuse résilience à laquelle le grand Cyrulnik nous a habitués.
Oui, et vous, Francis, dans votre livre « Le Vercors oublié », vous faites aussi face à ce silence, parce qu'il aura fallu des années pour que, finalement, c'est votre grand-mère, votre grand-père qui vous donne ce fameux dossier bleu.
C'est ma grand-mère, c'est votre effectivement, grand-mère qui me donne ce dossier bleu.
Combien d'années aura-t-il fallu attendre?
Ça se passe en 95, donc 50 ans après.
Ouais.
50 ans après, elle me dit, peut-être que tu pourras en faire quelque chose. Et en fait, je crois que cette question du silence, enfin, on est donc 74 ans après l'armistice. Et alors, on se dit, mais enfin, la guerre, elle s'est terminée à ce moment-là. Ben non, la guerre ne s'est pas terminée à ce moment-là. Et en particulier, pour les Juifs, la guerre ne s'est pas terminée à ce moment-là. La fracture du statut des Juifs de 1940 a été extraordinairement profonde. Extraordinairement profonde. Et vous imaginez bien que les Juifs qui avaient souffert et qui ont vu une partie des leurs déportés ou blessés à tout jamais pour ceux qui sont revenus. Donc que on ne pouvait pas en parler et que parce que alors. Les silences, il y a plein de niveaux d'explication des silences. Il y a plein de façons d'aborder ça. Moi, je dirais que la première, c'était on s'en est sorti, il y a eu pire. Donc là, on a tout le syndrome de la culpabilité du survivant, etc. C'est ouais. bien connu. Et puis, il y a aussi, on ne va pas se faire remarquer, nous, les Juifs, on nous a suffisamment stigmatisés. Nous qui nous vivions après tout pour une part comme des Israélites français, hein, mmh. je parle surtout parce que moi je viens de ce monde-là, mmh. parce qu'il y a aussi les immigrés juifs étrangers mmh. et eux par contre ont été beaucoup plus touchés par les déportations. C'est 40% des Juifs étrangers ont été touchés par les déportations, mais seulement à peu près 15 à 20% des Juifs israélites français. Mmh. Voilà. Donc c'était des gens souvent profondément intégrés, typiquement comme ma famille qui était là depuis avant la Révolution française.
Oui, oui.
Et puis un beau jour, on leur dit « mais vous n'êtes plus français
enfin, ». Vous mettez une étoile
on
jaune.
On les chasse. Voilà. Avant l'étoile jaune, on les a chassés des emplois d'enseignants, de médecins, de magistrats, etc. Donc,
oui.
Donc si vous voulez, là, il y a un apartheid qui se met en place. Et je crois qu'une des réponses de fait des Juifs dans l'immédiate après-guerre, c'est de dire, bon, on ne va pas en rajouter une couche là. Il ne faut pas qu'on se fasse remarquer. D'où le fait,
ouais.
D'où le fait que mon père, par exemple, nous dit, on va peut-être changer de nom.
Et oui, on comprend, vous nous expliquez tous les deux, finalement, cette nécessité du silence. Mais pourtant, la parole est nécessaire. La parole, elle est là pour transmettre une rencontre comme celle de Moissac et puis la réalisation de ce livre. Votre livre également, Le Vercors oublié, ce sont des moyens essentiels, nécessaires, indispensables, j'allais dire, pour transmettre ce message, n'est-ce pas ?
Oui, effectivement, je crois que lors de cette rencontre de Moissac de 2016, ce qui est apparu, c'est que témoigner, parler, à commencer par leur propre famille, était devenu pour ces anciens enfants devenus des personnes âgées, un moyen de sortir de leur souffrance, de leur douleur. Pendant longtemps, pour les raisons que Francis a très bien exposées, ils avaient choisi le silence, y compris dans le cercle familial. Moi, j'ai découvert des scènes très touchantes, voire bouleversantes à Moissac, de grands-parents qui parlaient pour la première fois à leurs enfants, mm-hmm. Quelquefois, ils avaient commencé par les petits-enfants, ce qui est intéressant d'ailleurs.
Comme pour Francis.
La démarche de Francis, à mon avis, est très, très représentative, exemplaire de ce qu'il a fallu affronter et de ce qu'il a fallu dépasser. En tout cas, le fait de pouvoir parler a permis de dire un certain nombre de choses. Et puis, de sortir d'un passé écrasant. Par exemple, le changement d'identité. Francis vient de faire allusion au changement de nom. Ce qui était très curieux, c'est que lors de nos premières rencontres avec ses anciens enfants cachés, il présentait comme une sorte d'acte de réussite le fait d'avoir pris un prénom et un prénom très français. J'allais dire presque trop français dans la zone dite libre, qui ne l'était pas tellement pour les Juifs d'ailleurs. Et plus tard, ils se sont aperçus que le fait d'avoir été dans l'obligation de changer d'identité était un trauma majeur dont il fallait sortir. Et peut-être que la rencontre avec l'historien est un moyen, peut-être. Hein, je serais très prudent et très modeste, mais indiscutablement, la rencontre de Moissac nous a valu des retours plutôt reconnaissants que traumatisants.
Messieurs, restez avec nous. Bernard Delpalle est en notre compagnie, ainsi que Francis Gainsbourger, pour parler de deux ouvrages et surtout pour rendre hommage à ces hommes qui se sont battus pour la liberté, des hommes qui sont entrés en résistance. Premier ouvrage, Résistance juive, paru aux éditions Libelle. Deuxième ouvrage, Le Vercors oublié, paru aux éditions de l'Atelier. On se retrouve dans un instant. Et on se retrouve dans la seconde partie de notre émission. Ce matin, nous rendons hommage à ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour la liberté, qui sont entrés en résistance. Et nous leur rendons hommage à travers deux ouvrages. Le premier, Résistance juive, c'est un collectif coordonné par Bernard Delpalle, qui est en notre compagnie. Il est historien, directeur de recherche honoraire au CNRS. Et puis le second ouvrage, c'est Le Vercors oublié de Francis Gainsbourger, qui est avec nous dans les studios. Alors, Bernard Delpalle, vous avez parlé de trois de ces villes, villages. Je ne sais pas s'il faut dire ville ou village, ça dépend. Parfois, ça se joue à quelques centaines d'habitants. C'est Dieulefit, c'est Chambon-sur-Lignon et c'est Moissac. Alors là, ce sont vraiment des noms très forts. Hein. En tout cas, là, la transmission, si on s'interroge sur la transmission, elle passe parce que ça résonne très fort dans nos oreilles, dans notre cœur. Ce sont des villes où là, on a sauvé, où on s'est battu contre les Allemands. Alors, on va peut-être commencer par le Chambon-sur-Lignon. On va donner quelques singularités de cette ville. Pourquoi est-ce que le Chambon-sur-Lignon est différent de Dieulefit et de Moissac?
Alors, effectivement, vous avez raison, chaque village a sa singularité, même s'il y a des traits communs. Le Chambon-sur-Lignon, indiscutablement, c'est un pays de sauvetage et de résistance en terre protestante. Hein, le plateau du Chambon, c'est un ensemble de petites communes qui ont comme point commun d'avoir une population protestante largement dominante, culturellement, démographiquement, et j'allais dire historiquement. Ce sont des lieux anciens de résistance à l'oppression. Là vivent des populations qui ont préféré souffrir plutôt que d'abandonner, que d'abjurer leur foi. Et une longue tradition de résistance à l'oppression s'est construite dans l'histoire auprès de ceux qu'on appelle les camisards. Et le jeu de mots a été fait plusieurs fois, il n'est pas de moi, mais je le reprends bien volontiers, camisards, malquisards, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont établi une sorte de continuité entre la résistance à l'oppression au roi Louis XIV, rester protestant, protester de leur foi, et la résistance à l'occupation, à l'oppression pendant la Deuxième Guerre mondiale. À cela s'ajoute une sorte de ce que Patrick Cabanel, qui est le grand spécialiste de l'histoire protestante et qui connaît admirablement le Chambon-sur-Lignon, a appelé la proximité théologique. En effet, ce que les jeunes protestants apprennent, c'est à vénérer, à remercier le peuple d'Israël. Et du coup, il n'y a pas cette distance, il y a au contraire une proximité qui a facilité l'accueil. Et puis, il y a des habitudes et le chemin de fer. Depuis la vallée du Rhône, on peut facilement venir dans une station où l'on se refait une santé et les poumons. Et des petits juifs venus de Marseille sont arrivés au Chambon-sur-Lignon. Et puis enfin, il faut ajouter qu'au Chambon-sur-Lignon, il y a eu de la résistance armée. Il y avait des maquis d'entraînement qui étaient formés. Il y avait également une résistance spirituelle. Le fils du grand Jules Isaac enseignait au Chambon-Saint-Lignon, au collège Sévenol. Donc, un ensemble de conditions qui font que le Chambon a une personnalité qui tout de suite a été remarquée, y compris par le président Chirac, qui en a fait un peu le symbole à la fois du sauvetage et de la résistance dans les années 94-95. Dieu le Fils est différent. J'allais dire, c'est une résistance polymorphe. Jacques Semelin, qui a introduit le dossier, dit que Dieu le Fils, dans sa diversité, est un peu à l'image des villages français de l'époque. Mmh. Il y a un peu tout le monde là-dedans. Il y a beaucoup de protestants, puisque Dieu le Fils se partage moitié-moitié entre catholiques et protestants, mais il y a également des radicaux, des socialistes, des communistes. Ces femmes admirables qui ont organisé les réseaux de résistance à Dieu le Fils sont des femmes de gauche. Ouais. À l'époque, on dit extrême-gauche.
Donc c'est plus politisé. On a c'est le Chambon-sur-Lignon qui est vraiment très marqué par le protestantisme et donc bienveillant finalement envers les juifs pour ces raisons-là. Et puis Dieu le Fils, là, c'est politisé et donc on se bat de toute façon contre cet occupant.
Les femmes qui dominent un petit peu de leur haute stature, ce sont Marguerite Soubéran, Jeanne Barnier, ce sont des femmes très engagées. Marguerite Soubéran adhère au Parti communiste en 1945. Elle est la marraine de la liste communiste aux premières élections législatives. Et pendant la guerre, elle ne cache pas ses sympathies pour la résistance. Et pour elle, la résistance, c'est les FTP. Les maquis qu'elles organisent autour de l'école de Beauvallon et autour de Dieu le Fils sont des maquis FTP, en rivalité d'ailleurs avec l'armée secrète, bien sûr, avec les gaullistes. Mais elles ont été toujours très fidèles à cette ligne de conduite. Elles sont d'autre part des agents de la politisation des femmes. S'engager en faveur des réfugiés, les protéger, c'est un acte politique, explique-t-elle en avril 1944. Il y a donc un double engagement humanitaire, politique. Pour autant, ni l'une ni l'autre n'ont oublié qu'elles avaient une éducation protestante.
Et elles donnent de leur personne, hein, parce que comment elles s'opèrent cette résistance concrètement? C'est pas uniquement. Alors il y a la résistance, qui est civile. Cette résistance civile, c'est pas de prendre les armes, mais c'est de cacher, de faire silence, de désobéir. C'est ça la résistance civile?
Oui, Jeanne Barnier incarne bien cette résistance civile. C'est une jeune fille qui est issue d'un milieu mixte, catholique et protestant, comme il arrive souvent à Dieu le Fils, et qui a été élevée par des parents dont l'esprit très Troisième République. Sa mère est directrice de l'école maternelle. On a des collets très hauts, beaucoup de maintien, beaucoup de dignité. Et surtout, on a appris à la jeune Jeanne Barnier, elle a 20 ans au moment de la guerre, on lui a appris à être loyale envers la République, loyale envers l'État. Et quand, pour la première fois, elle est secrétaire de mairie, quand Marguerite Soubéran lui demande de fabriquer des faux papiers pour assurer la survie des réfugiés, et spécialement des juifs réfugiés, c'est un véritable drame de conscience qui s'empare d'elle. Fabriquer des faux papiers est une faussaire. Et tout d'un coup, quand elle voit autour d'elle le malheur, elle est un peu comme l'homme révolté de Camus. Elle fait une brusque volte-face. Elle entre dans la désobéissance, dans l'illégalité, et elle prend d'énormes risques.
Là vous pointez du doigt quelque chose d'assez important. Toutes celles et ceux qui étaient au service de la France, de la République, se voient finalement entrer dans un dilemme pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils se disent, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je reste fidèle à la France? En tout cas, bien sûr, c'est Vichy. Est-ce que je reste fidèle? Ou est-ce que je prends conscience de mon humanité et je deviens un être humain qui vient en aide aux autres. C'est un dilemme qu'on a peu décrit.
Oui,
en général.
Peut-être pas assez. Au fond, il se pose à beaucoup de Français. Mais les secrétaires de mairie sont devenus des figures symboliques. Parce que
comme les policiers ou comme les gendarmes aussi sont face à un dilemme.
Qui détiennent une parcelle de la puissance publique se posent cette question. Faut-il être loyal envers un régime qui tourne le dos à nos principes humanitaires? Et au fond, ce que je trouve admirable dans l'histoire de cette jeune fille, et très symbolique, c'est qu'elle se pose la question, elle trouve la réponse, la bonne réponse, et elle s'engage.
Il y a un cheminement qui fait et qui se fait en elle.
Et ce qu'elle nous démontre, quand j'en parle en particulier à des jeunes au lycée ou au collège, j'essaie de leur montrer qu'à toute époque, à tout âge, on a le choix. On n'est pas obligé d'obéir à des ordres injustes.
Francis, dans le Vercors, est-ce que ça s'est passé un peu comme ça pour votre famille? Qu'est-ce que vous avez découvert de particulier dans l'acte de résister dans le Vercors?
Alors, peut-être me situer d'abord par rapport à ce que vient de dire Bernard sur la spécificité du Chambon de Dieulefi. Il n'a pas évoqué Moissac, mais
moi,
ce qui m'impressionne au fond, quand je lis ce livre fantastique qui s'appelle « Résistance juive », je l'ai lu, j'étais à la fin de la rédaction de mon propre ouvrage, et je me suis dit, mais au fond, dans le Vercors, il y a, en concentré, dans le Vercors drômois, tout ce qu'on trouve dans tous ces villages. Mmh. Alors, je m'explique. Il y a la résistance spirituel dont il a été question avec la présence de notamment de Yves de Montcheuil, des cahiers du témoignage chrétien, le catholicisme social, si vous voulez, donc ces gens précédés notamment par le cardinal Saliès qui ont refusé dès 41-42 la théorie raciale nazie et qui se sont résolument engagés au risque de leur vie. Il y a la résistance armée, évidemment, avec les réfractaires du STO. Et puis, il y a la résistance civile, avec ceux qui vont protéger ceux qui se cachent. Ceux qui se cachent ne sont pas que des Juifs. Alors, évidemment, il y a des Juifs. Il y a des statufiés, ce qu'on a appelé les statufiés, c'est-à-dire les gens qui ont perdu leur boulot parce qu'ils étaient Juifs. Les magistrats, les médecins, les enseignants, etc.
Les maires aussi, les maires.
Absolument, absolument. Et donc, Ladislas Fischer ou Marcel Ullmann sont des gens, pour l'un, il a été dénaturalisé, il a même perdu sa nationalité, il a été dénaturalisé, comme on dit. Et pour l'autre, Marcel Ullmann, c'était un juif de Strasbourg, enfin intégré, etc., mais qui avait perdu son boulot. Ou bien Armand Rosenthal, un ami de ma famille, qui était dont le père et le grand-père avaient été directeurs de l'Institut dentaire de Nancy à la faculté, et donc lui aussi. Et donc tous ces gens-là ont été tués à la Grotte de la Luire le 28 juillet 1944. Alors, il y a eu donc la résistance civile à protéger ces gens-là, mais ces gens-là, ils ont contribué aussi à soigner la population, à soigner les maquisards, et même à soigner des soldats de la Wehrmacht. Alors, et ce qui me frappe aussi, alors, c'est que il y a donc cette population du Vercors drômois qui, justement, va à la fois accueillir les réfractaires au STO, va accueillir des réfugiés toulonnais, des républicains espagnols, des juifs qui ont perdu leur emploi et qui montent pour combattre, va accueillir évidemment grâce à des relais comme le Père Fernand Vignon, va accueillir des gens qui sont de la résistance dite spirituelle. Et alors, ça va donner des enfants, des familles, etc., qui vont se cacher là, au milieu du conflit armé. Voilà.
C'est entremêlé, ce que vous voulez dire.
Voilà, c'est une interpénétration de toutes ces catégories-là qui se produit pendant une période de plusieurs mois. Y a tout le monde, si je puis dire. Et il y a tout le monde, y compris, il peut y avoir des gens de l'armée régulière qui a été démobilisée en 40, comme il peut y avoir des résistants communistes.
Alors, on continue d'en parler dans un instant, juste après la pause. Et on se retrouve dans la troisième et dernière partie de notre émission. Ce matin, nous rendons hommage aux hommes de la résistance, ceux qui se sont battus et qui ont combattu contre l'ennemi allemand à travers deux livres. Résistance juive, qui est un collectif et qui parle de trois villes, villages, Le Chambon-sur-Lignon, Dieulefi et Moissac. Nous sommes en compagnie du coordinateur de cet ouvrage. Il s'agit de Bernard Delpal, qui est historien, directeur de recherche honoraire au CNRS et professeur, et ainsi que le second livre, Le Vercors oublié, paru aux éditions de l'Atelier. Nous sommes en compagnie de son auteur, Francis Gainsbourger. Je rappelle aussi les éditions de Résistance juive, c'est les éditions Libelle. Alors c'est un très beau livre, ce livre sur les résistances juives. Il est truffé de documents iconographiques. Alors on a vraiment le sentiment de pénétrer dans cette population. On les voit vivre, ces hommes et ces femmes qui ont vraiment, et ces hommes qui ont vraiment donné de leur personne pour résister à l'ennemi allemand. Bernard Delpal, on a parlé du Chambon-sur-Lignon, on a parlé de Dieulefi, la particularité, la singularité de ces villes dans la résistance, mais il y a Moissac. Et Moissac se détache totalement parce qu'il y a une particularité, c'est l'action des Juifs notamment.
Voilà. Alors, vous avez mis le doigt, au fond, sur la singularité et l'intérêt de Moissac. C'est que Moissac nous permet de pénétrer, de travailler dans un domaine qui était un peu dans l'angle mort du rétroviseur de l'histoire. C'est-à-dire que, pour des raisons que les historiens connaissent bien, depuis une vingtaine d'années, la catégorie des justes parmi les nations, définie par l'État d'Israël en 1953, est devenue un objet historique. Et à travers ces dossiers, on a pu aborder des questions nouvelles, notamment le sauvetage des Juifs et l'attitude de la population française face au problème de ce que nous appelons maintenant la Shoah sur le territoire français entre 1940 et 1944. Angle mort, cela veut dire que dans la définition qui a été donnée par l'État d'Israël des justes parmi les nations, sont totalement exclus les Juifs. On ne peut pas remettre un diplôme ou une médaille de juste parmi les nations à un Juif. Si bien que, d'une certaine manière, nous avons été contraints d'ignorer dans nos travaux historiques la résistance, la présence, l'action des Juifs pour sauver d'autres Juifs, mais aussi pour combattre l'ennemi commun. Or, à Moissac, nous avons un dossier particulièrement riche. À la fin de l'année 1939, les dirigeants des éclaireurs israélites de France, dont le siège est avenue de Ségur à Paris, décide d'acquérir un certain nombre de maisons pour mettre à l'abri les enfants des bombardements que l'on craint sur la capitale. Alors c'est une action qui est de portée nationale. Il se trouve qu'une maison est achetée à Moissac. Cette maison va avoir un destin extraordinaire, puisque d'abord arrivent des enfants venus de Paris, des réfugiés, parmi lesquels majoritairement des Juifs étrangers, c'est-à-dire des Juifs qui n'avaient nulle part où aller. Ils allaient d'abord rue Lamarque, mais la rue Lamarque était trop petite pour accueillir tous les enfants. Ils sont ensuite évacués en zone sud, à Moissac. Et puis, viennent s'installer les cadres des éclaireurs israélites de France qui quittent Paris, et Moissac devient le siège pour la France entière de direction des éclaireurs israélites. Et ces garçons et ces filles de 18, 19, 20 ans passent brutalement de l'insouciance, de leur âge, des activités nature, feu de camp, veillée, à une responsabilité considérable.
Ouais. Protéger les jeunes et résister face voilà. à l'ennemi. Et ils ont 20 ans, on est choqué, ah oui. on est choqué de leur jeunesse.
Oui, Marianne oui. Cohn, qui est sur la oui. couverture, mm-hmm. a à peine 18 ans lorsqu'elle arrive à Moissac. Ouais. Et tout à coup, il lui tombe une responsabilité considérable sur les épaules. Il faut qu'elle prenne conscience de ce que sont les Juifs en France, à l'époque, ce sont des proies, des victimes désignées par le gouvernement de Vichy. Et puis, deuxième responsabilité, organiser le sauvetage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces éclaireurs israélites de France, dont l'armature est alsacienne, hein, Lorraine et alsacienne, c'est eux les cadres du mouvement.
Oui, absolument.
Ils ont des renseignements qui leur permettent de dire que non seulement les Juifs sont très menacés, mais qu'on ne pourra pas tous les sauver. Et d'emblée, dès la fin de l'année 40, une priorité absolue est donner à ces jeunes garçons et ces jeunes filles, les enfants d'abord, sauver les enfants. Mmh. Et Marianne Cohn, oui, qui finit d'une manière tragique, oui, en 1944, oui, va être l'organisatrice de plusieurs réseaux, mmh, mais pas seulement. Elle apprend ce qu'est être juive. Elle, qui appartient à l'aristocratie du Palatinat, allemand, mmh, en Allemagne, mmh, découvre sa judaïté, découvre aussi la Palestine. Elle ignorait même l'existence de la Palestine. Mmh. Et Simon Levit, un Palestinien qui est venu à Moissac, crée un enseignement de palétinologie. Mmh. Ça en dit long.
Oui, c'est fond. Fou. C'est-à-dire une chape de plomb qui leur tombe sur la tête, oui, à, oui, ces jeunes gens de 18-20 ans. Hein. Non seulement on les stigmatise pour quelque chose qu'ils ne soupçonnaient pas. Enfin, être juif, oui, ils le savaient qu'ils étaient juifs. Mais pour eux, c'était presque un détail. C'était vraiment leur religion, point. Ils étaient français.
Ils étaient, alors oui, ou français, ou
d'origine.
Ou
allemand. Oui, ou
allemand. Mais en tout cas, très vite, ils se serrent les coudes, ils s'organisent, oui, pour accueillir plusieurs centaines d'enfants,
dans cet orphelinat,
trouver des familles, ouais, pour les placer, s'assurer que la population française de Moissac ne va pas être hostile. Et là, ça marche assez bien, puisque un certain nombre de documents photographiques, oui, montrent que ces enfants, tous les jours, sortent en rang pour aller à l'école, pour, oui, aller dans un centre d'apprentissage.
On leur enseigne le judaïsme, hein, n'est-ce, voilà, pas, hein. On leur enseigne ça, ils sont à cheval là-dessus.
Sainte-Catherine Lewertowski, oui, le montre très très bien.
Oui, oui, oui.
Ce qui leur a permis de tenir, c'est la découverte ou la redécouverte ou l'approfondissement de leur judaïté. Mm-hmm. Les fêtes, oui, le Shabbat, oui, et surtout en public, oui, sur la place publique. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent pas.
Mais
enfants.
Alors, les habitants de Moissac sont comment? Ils sont quoi? Ils acceptent? Quel est leur comportement à tous ces
alors,
habitants?
Alors, c'est une question, évidemment, qui se pose pour toute la France, mais, oui, spécialement à Moissac. D'une manière générale, les Juifs intriguent. Ce qui me frappe, c'est qu'on les connaît peu. Une anecdote tirée du Vercors et de Georges Perec, il raconte que dans le sanatorium où il est caché, on lui dit un jour, l'infirmière qui va chercher le pain est malade, tu vas y aller. Il va à la boulangerie et la boulangère lui dit, mais qui es-tu toi? Ben, dit, je viens du Sana, je viens chercher le pain pour le Sana. Ah bon? Tu es malade? Ah, dis non, je suis pas malade, mais je suis juif. Tu es juif.
Oui.
Montre-moi tes pieds. Et le petit Perec retire ses chaussures et montre ses pieds. Et la boulangère tombe des nues, lui dit, mais tu n'as pas de sabots, tu n'as pas les pieds fourchus. Et elle lui bourre les poches de petits bonbons.
Oh.
Il est reparti avec ses bonbons. Et ça en dit long, au fond, sur l'ignorance, j'allais dire, dans le monde rural profond, de la France,
oui,
profonde, de ce qu'est un juif.
Oui.
Ce colportent les images les plus anciennes de l'antisémitisme.
Oui.
Hein, le juif, c'est un être étranger. Où il est riche, où il est fourchu, mais il n'est pas comme nous.
Mmh.
Et je crois que la première expérience de l'accueil, c'est de découvrir que les Juifs sont des hommes, des femmes et des enfants, au fond. Mais là, je ne suis pas le premier à le dire. C'est l'été 42 qui a tout fait basculer.
Mmh.
C'est quand les Français de la zone sud découvrent qu'on arrête des hommes, des femmes, des enfants, des bébés,
mmh,
qui se disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Et bah, là où s'organisent les réseaux de planque, de résistance, de sauvetage, on a affaire à une population qui, d'une manière générale, si vous voulez, est sensible à l'argument de Saliège, à l'aide de Saliège. Ce sont des hommes et des femmes et des enfants,
ouais,
comme nous. Et on ne peut pas les laisser traiter comme des animaux, des sous-hommes, les laisser parquer, embarquer dans les chemins de fer pour une destination inconnue. On doit empêcher ça.
Et donc on réagit. Francis.
Oui, moi j'aime beaucoup la formule de Bernard dans l'angle mort du rétroviseur de l'histoire. Je pense que le rétroviseur de l'histoire, il a été fabriqué autour d'une polarité entre les bourreaux et les victimes. Et que dans cette polarité-là, on a oublié que dans les victimes, il y avait eu beaucoup de combattants. Je ne vais pas parler des bourreaux ici, c'est un autre sujet, mais que dans ces combattants, il y avait eu d'abord les combattants juifs, la résistance juive, qui est quelque chose de très différent de la place des juifs dans la résistance nationale, n'est-ce pas, hein. À un moment donné, vous parlez d'un Lévi, c'est Dupont, hein, Lévi chez les juifs, et vous dites, il ne faut pas confondre Jean-Pierre Lévi avec un I et Jean-Pierre Lévi avec un Y. Hein. Jean-Pierre Lévi avec un Y, c'était le fondateur du mouvement...
Franc-tireur.
Du mouvement franc-tireur, voilà. Et donc là, c'est un autre Jean-Pierre Lévi. Mais voilà, je veux dire... n'oublions pas les combattants juifs qui ont organisé, y compris des maquis, s'agissant de Moissac. Et puis, ce qu'il faut rappeler en ce jour anniversaire de la, du 8 mai 1945, ce sont les combats qui sont menés dans la population. Parce qu'après tout, on s'est baladé dans soit le résistentialisme, c'est-à-dire tout le monde avait été résistant, soit dans ce que Paul Thibault, dans la revue Esprit en 2007, appelait le pénitentialisme, c'est-à-dire nous avons tous péché d'indifférence et voire de collaboration, le chagrin et la pitié, et oui. La France rurale
a été complètement... Il faut rappeler la nuance, c'est voilà. Ça, Francis, que
il
vous
faut introduire
dire.
De la nuance et dire qu'il y a eu des combats dans la population. Et que ce que, pour ma part, j'ai tenté de montrer, c'est qu'il y a, là où il y a un angle mort dans le rétroviseur de l'histoire du Vercors, c'est que l'histoire du Vercors a été vue sous l'angle de la résistance armée, mais la résistance civile et la résistance spirituelle qui ont tant fait pour protéger tout le monde, dont les Juifs, que cette résistance-là, elle a été ignorée par... Toutes les célébrations, toute la sacralisation de la résistance du Vercors, c'est celle de la résistance armée. Mais il n'y avait pas qu'elle.
Eh bien, c'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, nous rendons hommage à tous ces résistants. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous pour cette émission Hommage et pour ce 74e anniversaire de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle le nom des deux livres, Résistance juive, Solidarité, Réseau, Parcours, paru aux éditions Libelle, ce collectif donc à découvrir. Et puis, Le Vercors oublié, paru aux éditions de l'Atelier. C'est l'histoire familiale dans la grande histoire de Francis Gainsbourger. Nous étions également en compagnie de Bernard Delpal, professeur, directeur de recherche honoraire au CNRS et qui est le coordinateur de cet ouvrage Résistance juive. Messieurs, merci beaucoup et à très bientôt
merci
sur notre antenne.
Merci à vous.
C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona.